Bonjour, bienvenue à l'émission Aime l'été, lundi 17 juillet, une autre semaine qui commence, les vacances pour plusieurs, la légèreté estivale qui est bien installée, mais on n'est jamais loin de préoccupations plus sérieuses non plus. Une semaine qui, pour nous, sera marquée par de nombreux invités qui viendront tour à tour discuter de sujets variés, des festivals, bien sûr, des activités, de toutes sortes de belles découvertes artistiques, des émissions à regarder, des balados qui brassent la cage de nos convictions, on en verra de toutes les couleurs. Quant à moi, c'est ma gymnastique quotidienne, passer d'une rencontre à l'autre, voici pour la prochaine heure, Aime l'été! Et aujourd'hui à l'émission, une exposition à ne pas manquer, tout l'été au Musée des beaux-arts de Montréal, l'univers au creux des mains, pensée et splendeur de la Colombie autochtone. J'en discute avec la conservatrice et responsable de l'exposition, R.L. Hubert. Aussi, nous recevons trois jeunes femmes afrodescendantes qui s'animent sur les réseaux sociaux et qui veulent donner la parole à des communautés marginalisées, mais qui s'adressent à un public très large. Mais d'abord, on reçoit le producteur et animateur Simon Damour, qui nous a fait découvrir le Yukon de manière toute spéciale et qui nous a préparé une nouvelle série qui réunit des jeunes francophones du Yukon qui passent une bonne partie de leur temps à jouer dehors. Voici donc le menu de l'été, de Aime l'été, voilà. Alors je vous invite à nous suivre jusqu'à 13h. Et je salue nos recherchistes qui, tour à tour, nous ont préparé des émissions et des sujets fort intéressants. Méliane Fafard, notamment, qui a préparé l'émission d'aujourd'hui. Et au cours de la semaine, on parlera aussi avec nos deux recherchistes stagiaires et chroniqueuses, Anaïs Sabourin et Aya Jennifer Ando. Et je salue également Nicolas Wartman à la mise en onde et au choix musical. Mais on accueille à l'instant notre premier invité, le producteur, réalisateur et animateur Simon Damour, qui nous propose une toute nouvelle série sur le plein air au Yukon avec des jeunes francophones qui viennent tour à tour partager leur passion. Bonjour Simon Damour.
Bonjour, bonjour.
Bon, alors écoutez, faire de la télé, habiter dans un autobus, apparemment que c'était deux souhaits quand vous étiez petit.
Oui, quand j'étais petit, mes parents, ils trouvaient ça bizarre que je leur dise ça. J'étais comme, moi, je veux vivre dans un autobus, voyager le monde. Puis, ben, pas tout le monde, parce qu'on peut pas se rendre partout avec un autobus, là. Mais je voulais faire de la télé, puis mes deux souhaits se sont réalisés. Puis, je vis encore, ouais, maison, mais je vis dans une cabine. Fait que c'est comme un autobus, là. Donc, je vis encore l'autobus, puis la maison dans le bois. Puis,
c'est ça.
Je fais encore de la télé.
Bon, alors vous êtes là présentement au Yukon, hein?
Oui.
Bon, alors c'est pour ça qu'on vous sent loin un peu, mais c'est pas grave. Alors, de toute façon, donc ça fait en sorte qu'on comprend qu'il y a un petit délai. Mais en fait, donc vous avez réalisé vos rêves, vous habitez le Yukon depuis une dizaine d'années. Là, ça fait quoi, 12 ans même, je pense?
Oui, je suis arrivé ici en 2021. Bon. Donc, ça fait 12 ans, ça.
C'est ça. Et donc, effectivement, vous parlez de cabine. Alors, vous avez votre petit pied à terre, puis vous avez votre autobus. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde votre série, au cœur du Yukon, je pense que c'est là-dedans que là, vous allez nous présenter votre maison, votre cabine. Et puis, tout est fait pour que... En fait, c'est la simplicité volontaire, ou à peu près, parce que même au niveau de l'autobus, là, vous avez tout aménagé ça pour que ce soit le plus simple possible, que vous ayez à moins consommer aussi.
Ben c'est ça, tu sais, beaucoup de gens dans le Nord vivent avec peu. Tout est axé sur l'extérieur, donc le plus de temps qu'on passe à l'extérieur. Donc, pas grand monde ici avec des gazons verts.
Pas vraiment.
Des articles de sport, puis on passe beaucoup de temps dehors. Puis on essaie aussi de se débrouiller. La route, c'est loin, amener des légumes, de la nourriture ici. Donc, j'ai beaucoup de gens qui ont des jardins, qui vont à la chasse, à la pêche. Donc, c'est vraiment présent au Yukon. Puis aussi, les Premières Nations sont très présents. Donc, les Blancs, on peut dire ça comme ça, sont inspirés par la façon de vivre des Premières Nations qui est beaucoup axée sur la chasse, la pêche. Vivre dehors, vivre avec la nature,
c'est
cueillir.
Ça.
Oui.
Alors, il y a cette transmission du savoir et puis effectivement, de nouvelles façons de faire, d'être en autonomie, enfin, d'essayer d'être le plus autonome possible et de consommer le moins possible. Effectivement, donc, apprendre, vous avez appris ça au fil du temps, évidemment, à faire de la pêche, chasse et tout, mais ça, c'est, vous le documentez en plus dans vos émissions, c'est ça qui est intéressant.
Ben c'est ça, toutes mes émissions, moi, c'est la rencontre des gens, puis des gens hors du commun habituellement, et aussi beaucoup de temps dans la nature. Que ce soit va jouer dehors, ben aller rencontrer des jeunes qui jouent beaucoup dehors, que ce soit comment ça va dehors qu'on parle de changement climatique, ou que ce soit au cœur du Congo où j'étais en autosuffisance nomade, donc je me promenais, puis je mangeais ce que je trouvais, je rencontrais des gens qui vont dans la nature pour la médecine, la nourriture, tout ça, puis je vis comme ça tous les jours, là, que je pense. Ça, dernièrement, je pose beaucoup les micro-pousses. Moi, je sais pas si vous connaissez les germinations.
Ouais, bien sûr.
Cette année, je les plante aussi dans des petits bocaux. Mais c'est surprenant de voir qu'en une semaine, on a de la nourriture, là. J'ai plus besoin d'acheter aucune salade. Puis ça, c'est un problème à Whitehall. Justement, à chaque fois que tu arrives devant le rayon des salades, il y en a plus de salades aussi. Il y en a, sont toutes pourries. Donc, j'ai fait commencer à faire des pousses. Puis là, ben, c'est direct sur mon balcon. Je coupe mon verre et puis tout est là. Là, on a de la ragula, on a toutes sortes de choses qu'on mange. Puis c'est surprenant de voir comment qu'on peut se débrouiller dans la vie à manger simplement. Puis ça n'a pas besoin d'être au Yukon non plus. Ça peut être partout. Puis c'est ça que je veux faire à travers mes émissions, c'est d'influencer les gens à trouver des solutions faciles pour se débrouiller. Puis
ouais, d'ailleurs, vous le dites, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors, il faut se mettre ça dans la tête.
Ah oui.
C'est vraiment ça que vous... Ouais, c'est ça que vous nous montrez finalement, et vous êtes très heureux ainsi, et c'est vraiment oui, ça, c'est contagieux finalement quand on écoute vos émissions. Ben je pense que oui, on a cette volonté aussi de faire les choses plus simplement. Alors vraiment, et puis bon, vous utilisez tout ce qui vous tombe sous la main pour vraiment rendre ça le plus profitable possible. Alors effectivement, vous nous avez parlé de certaines émissions, donc au cœur du Yukon bien sûr, que j'ai eu le plaisir de regarder, j'en ai regardé quelques épisodes. Bien sûr, là, il y a cette nouvelle série sur TFO, TFO qui est en fait le média public francophone en Ontario, oui, qui fait briller la francophonie en Ontario.
Ben oui, puis c'était le fun de pouvoir faire une émission sur les jeunes d'ici, donc même si on n'est pas en Ontario, mais ce que je me rends compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de franco-ontariens au Yukon. Puis c'est le fun d'avoir eu la chance de pouvoir faire quelque chose avec Télévision francophone d'Ontario. Là. C'est une belle opportunité.
C'est ça. On va en parler, bien sûr, de cette émission, de cette nouvelle série. Mais d'où vous vient cette passion là, pour le Yukon? En fait, vous avez toujours un petit peu... D'abord, vous êtes un touche-à-tout. Hein? Vous avez tout un parcours. Vous avez à peu près touché tous les métiers.
Je ne sais pas quand... Ah non, le téléphone. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, je vous entends bien. Pas de problème.
OK, moi j'ai eu des bruits d'extraterrestres là.
Non, j'ai pas entendu le téléphone, moi.
OK, parfait. Moi, ça fait des bruits d'extraterrestres. Quand je suis de la génération, quoi, j'ai 50 ans, là. Donc, dans ma génération, moi, mes parents, c'était beaucoup. Leurs parents, eux, sortaient de la guerre. Donc, c'était comme une boîte, tu vas aller à l'école, tu vas devenir un docteur, puis tout ça. Puis c'était important. Puis moi et ma soeur, les deux, ma soeur voulait devenir clown. Elle a réussi, elle a une grosse compagnie de cirque au Québec.
Merveilleux.
Puis moi, je voulais vivre en dehors de la boîte. Fait que tout de suite, dès ma jeunesse, j'ai parti de ma première business à l'âge de 10 ans. Je me débrouillais, je voulais faire mes propres affaires, je voulais pas suivre un chemin bien tracé. Puis c'est ça qui m'a amené au Yukon parce que, premièrement, je voulais déménager dans l'Ouest. Je sentais que c'était plus de liberté, le sport, comme dans Va jouer dehors. Moi, j'ai toujours... Tous les sports que je fais dans Va jouer dehors, c'est tous des sports que j'ai fait depuis que je suis tout petit. Puis je veux en faire plus. J'aime tellement ça, apprendre des nouveaux sports. Donc, ça m'a poussé vers l'Ouest, qui était un endroit encore plus... Les montagnes sont plus grosses, il y a plus de neige et tout ça. Et donc, là, quand j'étais rendu dans l'Ouest, il en manquait encore. Donc là, je suis monté dans le Nord, puis j'étais arrivé dans un endroit qui est encore plus sauvage, puis qui est plein de gens comme moi qui adorent se débrouiller puis vivre des expériences uniques. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Je parlais avec quelqu'un hier qui me disait, on vivait en Guadeloupe, c'était 400 000 personnes. On vit au Yukon maintenant, il y a 40 000 personnes avec une étendue tellement plus grande. C'est ça le Yukon,
Alors, c'est ça. Donc, vous êtes littéralement tombé amoureux de cet endroit-là. Et puis là, bon, effectivement, bon, il y a des jeunes, bien sûr, qui ont grandi au Yukon et qui, pour eux, la nature, c'est naturel. Ils ont vraiment évolué, dans les rivières, dans les forêts et tout. Alors, c'est un peu naturel pour eux, bon, par exemple, de faire des activités comme du kayak et tout. Alors, là, c'était vraiment, quelle a été la principale difficulté pour vous de trouver ces jeunes-là?
C'est qu'au Yukon, les jeunes, vu qu'on n'est pas beaucoup, qu'on est 40 000, ont beaucoup d'opportunités. Et donc, si tu arrives avec une nouvelle opportunité, j'aurais présenté ça à Ottawa ou à dans une région en Ontario, j'imagine que les jeunes auraient été « Ah oui, on veut faire de la télé! » Puis, mais ici, c'était comme « Ouais, je sais pas.
» Peut-être.
Donc, c'était vraiment de convaincre ces jeunes-là de venir partir à l'émission, puis une fois qu'ils étaient convaincus, unanimement, tous les jeunes ont dit que c'était la plus belle expérience que j'ai vécue, et puis c'était ça la plus grosse difficulté, c'était de les amener devant la caméra, mais ça a super bien été, puis ça, c'était vraiment le fun.
Ben oui, puis de le faire en français.
De le faire en français, parce que je faisais des émissions en français avec les adultes, mais à chaque fois que je rencontrais un jeune, je me disais, waouh, ils sont impressionnants. Puis j'ai travaillé souvent avec des jeunes. J'avais une école de film avant, j'avais une école de snowboard dans les années 90, quand la planche à neige a commencé. Donc, j'ai toujours eu un contact avec ces jeunes-là, de vouloir pousser les jeunes à faire plus, parce que justement, moi, j'aurais été mais ça être encore plus poussé quand j'étais jeune, au lieu de me faire dire non, c'est une boîte, faut être à l'école, tout ça, puis les choses sont comme ça. Mais moi, j'ai toujours voulu pousser aussi les jeunes, puis avec Va jouer dehors, c'était ça l'idée, c'était de pousser des jeunes puis à nous montrer ce qu'ils font, parce que il y a des caractères, puis vous le voyez dans Va jouer dehors, les jeunes sont intéressants, là. Il y a beaucoup à dire, puis...
Tout à fait, puis bon, ils vous en montrent, d'ailleurs, c'est eux qui vous guident, finalement,
ben oui.
Malgré leur jeune âge,
Oui, je me suis laissé guider dans plein de sports que je faisais déjà, mais que j'ai appris, parce qu'eux, ils font... à tous les jours. Moi, je touche à tout dans les sports, mais je ne suis pas tout le temps dedans. Et donc, eux, il y en a là qui en font vraiment souvent, puis j'ai appris d'eux. Puis j'aime ça aussi jouer l'innocent. Des fois, c'est le fun parce que tu apprends plus quand tu fais semblant que tu ne sais pas ce que tu fais.
Oui, c'est ça.
Donc, j'ai
Ah bon.
J'ai appris beaucoup.
Puis là, c'est très varié. C'est évidemment, bon, c'est une série de il y a combien d'épisodes déjà?
13 épisodes de 24 minutes.
OK. Alors donc, tout y passe, là. Kayak, escalade, la pêche, la randonnée, vélo de montagne, du kitesurf, il y en a, chien de traîneau, fat bike. Alors vraiment, c'est assez complet. Alors vraiment, vous avez réussi à dénicher des jeunes qui font toutes ces activités. C'était pas rien, là.
Oui, ça fait beaucoup de jeunes. Je pense qu'on avait une trentaine de jeunes là, qui sont venus à l'émission, parce que c'était pas un jeune par émission. Il y en avait qui avaient plus qu'un jeune. Donc, puis toutes des jeunes colorés.
Ah oui, qui ont vraiment beaucoup de personnalité, beaucoup d'aplomb aussi.
Oui.
Et en même temps, ce sont des jeunes qui sont conscients des dangers, qui pratiquent ces sports aussi de manière la plus sécuritaire possible. Quand on s'en va sur l'eau, quand on affronte des vagues quand même assez importantes, quand la rivière se déchaîne, là, alors c'est ça, ils ont quand même un respect, ils ont quand même, ils savent quoi faire, puis on n'y va pas juste comme ça, deux, trois, là. T'sais, on essaie, c'est-à-dire qu'on essaie d'être bien entouré avec des gens d'expérience. Mais évidemment, c'est intéressant parce que je lisais les commentaires de ces jeunes. Ils ont trouvé ça. Ils étaient surpris de voir à quel point ça prenait du temps de tourner une émission.
Ben oui, parce que, tu sais, quand on le voit à la télé, on pense que c'est... Bon, on a fait ça, on a filmé ça. Mais souvent, il faut refaire des prises. Prise 1, prise 2, prise 3, c'est pas... C'est pas une joke, ça, là. C'est vrai que ça se passe comme
oui.
ça. Puis les jeunes ont... C'était surtout ça, la passion. Tu me disais, moi, je pensais venir faire du sport. Je fais pas du sport. Ça, c'était l'autre aspect, parce que d'avoir fait une émission, avoir fait de la planche à neige ou du ski ou du traîneau, whatever que c'est, pendant 24 minutes avec aucune intervention, ça aurait été long.
Je veux dire,
il y a beaucoup de films de snow. Puis c'était pas ça, vu que TFO veulent enseigner, c'est éducatif. Fallait qu'on ait un volet éducatif, fallait qu'on ait des interactions avec les jeunes, qu'on explique c'est quoi le sport, c'est quoi son historique et tout ça. Et c'était ça qui était long. C'était les interventions avec les jeunes, puis eux, ils s'attendaient pas à faire ça. Puis c'était un peu comme du théâtre aussi, parce que je veux dire, si tu le fais comme du documentaire,
tu regardes ce qui se passe, on dit fly on the wall, la mouche sur le mur, tu regardes, tu observes qu'est-ce qui se passe. Mais dans une émission, c'est pas pour enfants comme ça, c'est structuré. Donc, il faut faire des scènes, il faut reprendre des choses. Donc, les jeunes ont vraiment appris à acter, à être le plus, faut que ça ait l'air le plus naturel possible, que ça a l'air d'être la première prise, mais des fois, c'est rendu ouais, la c'est septième ça. Prise, là. Donc, c'est ça que les jeunes, je pense, ont trouvé difficile, qui ne s'attendaient pas, mais qui ont appris énormément aussi, puis qui se sont dit, on le referait n'importe quand.
Oui, c'est ça. Enfin, vraiment très intéressant. C'est une série, donc, qu'on a vue au printemps, qui a commencé au printemps.
Oui, qui était, puis là, je pense que tous les 13 épisodes doivent être en ce moment disponibles sur TFO. Là,
exactement, oui, sur leur plateforme. Oui, oui, c'est disponible. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, on peut voir, bien sûr, je pense que c'est sur TV5 Uni, on peut voir aussi d'autres, je pense que c'est au cœur du Yukon qu'on peut voir sur cette plateforme-là.
Oui, sur TV5 Uni, au cœur du Yukon, je crois qu'il y a encore aussi D'amour et d'eau fraîche,
oui,
peut-être, qui est disponible,
oui.
Ou sinon c'est disponible sur Tout.tv. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Sur Tout.tv aussi, il y a Comment ça va le Nord 1 et 2, qui est l'émission sur les réchauffements climatiques. Et puis, je pense que j'ai même L'école d'Arthur, qui était mon premier départ avec les jeunes, que j'avais fait un documentaire sur un jeune trappeur qui voulait plus aller à l'école. Il voulait juste être... Fait que ça aussi, c'est sur Tout.tv. Puis je pense que la meilleure façon de le voir, c'est d'aller sur ma page Facebook, Simon D'Amour TV Producteur. Et puis là, les gens peuvent suivre ce que je fais, puis ça donne des liens un peu partout à où sont mes émissions. Mais il y a beaucoup de choses de disponibles. Puis c'est tout à propos du Yukon, puis à propos d'être à l'extérieur. Puis j'invite les gens.
C'est vraiment très, très intéressant de vous suivre. Vraiment, vous êtes très productif et puis vous êtes, évidemment, votre bonne humeur et votre enthousiasme, c'est tout à fait contagieux. Merci, Simon D'Amour. Alors, on va, vraiment, ce sont des heures de plaisir qui nous attendent avec vos documents, avec vos films.
Bien, merci beaucoup, puis passez une belle semaine.
Bien, vous aussi, au Yukon. Alors, ça nous fait rêver un peu, là. Est-ce qu'il fait beau là-bas? En ce moment?
Étonnamment pas aujourd'hui, mais ça fait un mois qu'il fait soleil. Puis on est bien content qu'il pleut aujourd'hui parce qu'il y avait un gros, gros feu de forêt qui était à 15 km de chez nous. Donc là, le feu de forêt, il s'éteint. On est bien content.
Bon, alors on se croise les doigts, effectivement. Merci, Simon D'Amour. Et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée.
Black girls in my area cold, dark skin, light skin, medium tones, perm ting braids, got mini afros, thick lips, got hips, some of us don't, big nose contour, some of us won't, never wanna put us in the media, bro, wanna fat beauty like Kardashians, no, wanna fat beauty like my auntie got, yo, wheel up the block, like tell her reload it, I've got the camera, my girls are posing, I need some backup, then my ones are rolling, grown woman thinks I'm never at risk, mind my own business, I'm never in mess, who am I, I ain't bae, get a slice of the cake, want a house with a view and a new pair of shoes, keep it real from the jump, Gucci gang, little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truth, do you, they don't care, do you, they don't care, get your ass out the box and build up from there, I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean, I brought Nikes cause we think they're clean, MJ leather jacket beating Billie Jean, MJ leather jacket cause I think I'm bad,
that's cool, I like it, the growth, the lie, the pain, the fight, we love, we fight, we hurt, we cry, he paid the price, you'll be alright,
I think I need some
pink black girls, not area code. These black girls need to be in the shows. Be on the runways, not just mood boards. On top of that, I wanna see when your team. Look at your crown, natural lights to the Jericho. On time, soft and sheen. Where black girl magic is sometimes blue. My broke a hairband or two. Raise my voice, you're gonna say that I'm angry. Kiss my teeth, and now you say that I'm hood. Kid at 16, you say it's my destiny. Driving a range, you think I'm up to no good. Give us a break and let us breathe, man. Give me a chance, let us achieve, fam. And I know that my hair looks a bit different today. So don't touch my hair.
Like new hair, who this old?
black bomber jacket and a band to twist. Look, mind over matter, I can handle this. We're fine, take a second, the rewards in risk. See, I think that I care too much. Bottle of some cover, see air. Two cups, I've got nothing to show, but you love. Check my flaws and all my trials. I was black back when it wasn't even in style.
That's cool, I like it. The growth, the light, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price, you'll be.
C'était Annie avec Georgia Smith, Bang Black Girls.
Oui, alors bon, on devait recevoir, il y a un petit contretemps parce qu'en fait, nos invités se sont trompés d'heure. Ce sont des choses qui arrivent quand on fait du direct, bien sûr. Alors, il était question de ce balado, en fait, Black Girls from Laval, ces trois jeunes afrodescendantes qui ont créé ce balado dans le but d'avoir des conversations sur des sujets encore tabous au Québec. Alors, des animatrices qui n'ont pas la langue dans leur poche, assurément, et qui souhaitaient montrer les richesses émanant de la diversité culturelle, aborder différents enjeux, tout en gardant un aspect humoristique. D'ailleurs, en fait, il y a leur balado qui seront enregistrés lors de ZooFest dans les prochains jours. Alors, on va sans doute en reparler avec elles, cela dit. Et puis, bon, alors, mais peut-être que, Nicolas, je te demande peut-être de nous présenter, on pourrait peut-être entendre, la bande-annonce de ce balado.
Bien sûr, je vous lance ça.
Le podcast Black Girls from Laval s'adresse vraiment à un public très, très large. Donc, toutes les personnes qui veulent apprendre, qui veulent s'éduquer, qui sont ready. Donc, nous, c'est pour ça qu'on est là, dans le fond. Fait que c'est vraiment aussi pour les gens qui sont tannés du manque de diversité d'opinion dans les médias traditionnels. Donc, c'est pour ça qu'on est là.
Donc, qu'est-ce que Black Girls from Laval représente? En fait, moi, quand je vois Black Girls from Laval, moi, je vois le sisterhood, je vois des communautés marginalisées qui se mettent de l'avant, qui prennent des initiatives. Moi, je vois un changement qui est tellement nécessaire dans cette société. Moi, je vois de l'espoir beaucoup. Je vois de la relève, puis je vois de l'empowerment. Puis we are all for it.
Le but de Black Girls from Laval, c'est de donner un micro à des gens qui n'en auraient pas nécessairement tout le temps dans les médias traditionnels. Comme Christelle aime le dire, on n'avait pas notre place à la table, alors on a décidé de créer notre table. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on s'est dit, hey, on va se mettre ensemble. Puis ce qui est nice avec notre podcast en tant que tel, c'est qu'on est vraiment. On est trois à moi, oui, mais on est trois différentes. Fait que directement, au premier regard, tu vois qu'on a des backgrounds différents, des valeurs différentes sur un sujet où les gens pourraient penser que tous les Noirs pensent pareil. Ben non!
Bisous, bisous, caca!
Et oui, alors ces jeunes femmes afrodescendantes qui ont ce balado Girls, Black Girls from Laval, effectivement, qui ce balado d'ailleurs qui a gagné un prix, effectivement. Et bon, j'accueille avec moi, bon, Aya, Jennifer Rando. Bonjour, Aya.
Coucou, Chantal.
Alors vraiment, c'est un balado, oui, fort sympathique, en
oui,
fait.
Oui.
Et puis bon, je pense que oui, ça peut, pour les gens qui sont marginalisés, oui, ça peut offrir une autre voie. Évidemment, c'est un point de vue de réseaux sociaux, bien entendu. Bien, alors, c'est à découvrir. Cela dit, on y reviendra avec ces jeunes femmes. Aya, juste, tu nous as parlé la semaine passée de la diversité alimentaire.
Oui.
Ce qui est intéressant aussi à Montréal, je te demande ton avis là-dessus, sur les rues piétonnes à Montréal aussi, qui sont vraiment, en fait, c'est devenu une signature hein, de l'été montréalais, symbole de ce dynamisme de nos artères commerciales. Vraiment, est-ce que tu as, par exemple, l'avenue Mont-Royal, qui est vraiment la plus longue.
Oui.
C'est très intéressant de se promener de Saint-Laurent à Folhomme.
C'est parce qu'au début, quand je suis arrivée ici, c'était pendant encore le... Il y avait encore un petit hiver qui était là. Puis là, tout était très... pour les voitures. Donc, les voitures passaient. Puis, un certain temps, je me suis repartie encore sur la rue Mont-Royal. Puis là, je vois que tout est barré.
Ouais, t'as réalisé
que c'était... Les voitures qui passent.
Ouais.
Donc, c'était vraiment intéressant. J'étais comme, ben, OK, c'est l'honneur aux personnes qui marchent, qui sont en bicyclette.
Voilà, c'est ça, priorité
c'est
aux
parfait.
Piétons. Et puis bon, ben effectivement, parce que c'est vraiment... bon, d'abord, la piétonnisation attire des milliers de familles, de visiteurs, tout ça, d'ici et d'ailleurs. Hein. Bon, c'est très intéressant pour les touristes. On a ça un peu partout dans le monde
aussi,
quand on va à l'étranger. Il y a toujours des rues qui sont piétonnes. Alors, c'est fort intéressant. Alors, ça contribue aussi quand même au dynamisme économique des quartiers. Alors, bon, il y a des retombées importantes pour l'économie locale, donc je pense que ça fait le bonheur de tous. Alors, d'ailleurs, les sondages le démontrent. Les gens sont fort heureux, même si ça cause un petit peu, des fois, des problèmes de circulation. Mais tu sais qu'on en a 10 rues piétonnes ailleurs. Alors, t'as de quoi t'amuser cet été?
Ben, en tout cas, hier, quand j'étais au Vieux-Port, j'ai vu qu'il y avait encore des routes barrées. Donc, j'avais vraiment de la pitié pour les personnes qui étaient en voiture. Mais en même temps, venir au Vieux-Port en voiture, je pense que c'est... En été surtout, là, je pense que c'est comme...
Non, c'est pas réaliste.
C'est pas réaliste.
Ouais, surtout quand on a une station de métro tout près.
Vraiment?
Alors, je peux vous dire qu'on a quand même 10, c'est ça, rues piétonnes à Montréal. On a parlé de l'avenue Mont-Royal, qui est la plus longue, là, 2,2 km ou 2,5. En tout cas, c'est quand même important. Et on a aussi, la rue Saint-Hubert, qui est piétonne hein, dans le village, ça, on le sait bien, entre Saint-Hubert et... Papineau. Il y a la rue Ontario aussi qui est intéressante, rue Ontario-Est, entre le boulevard Pinot et Darling, un coin aussi à découvrir, très intéressant. Donc ça, c'est une rue piétonne qui est bien installée là jusqu'au 9 septembre. La rue, également la rue Saint-Denis, entre les rues Sherbrooke-Est et de Maisonneuve également. Et d'ailleurs, bon, il y avait le Festival Montréal complètement cirque hein, qui était installé de ce côté-là. Il y a d'autres activités, évidemment, tout au long de l'été. Il y a la rue Wellington aussi, dans Verdun, qui est forte intéressante, alors vraiment qui est très dynamique, très festive, entre la 6e avenue et la rue Regina. Ça aussi, c'est une rue piétonne jusqu'au 8 septembre. Alors, on en a plein comme ça, on en a d'autres. Alors, c'est à suivre, on y reviendra. En tout cas, et puis, ben, toi, tu nous prépares une belle chronique aussi pour cette semaine. En fait, c'est jeudi, oui.
Oui, jeudi.
Alors, c'est à suivre, mais je pense pas que tu vas nous dévoiler tout de suite ton sujet.
OK, parfait, parfait.
Je vais garder ça secret,
en tout cas.
Oui.
Mais en tout cas, je peux donner juste un petit indice. Ça fait partie de la première chose que j'ai entendu quand je suis arrivée ici. C'était troublant, mais en même temps...
Ah, c'est ça. C'est quelque chose que tu as entendu qui était...
Oui.
OK, ben on va mijoter là-dessus.
On va mijoter sur ça.
Bon, merci. Et puis bon, ben on fait une pause. On revient avec la deuxième partie de l'émission.
Aime l'été.
Eh bien donc, deuxième invité pour nous, en fait, on reçoit Erel Hubert, qui est la commissaire responsable de l'exposition « L'univers au creux des mains, splendeur des peuples autochtones de Colombie », qui est présentée au Musée des beaux-arts de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Très heureuse de vous accueillir. Bon, je dois dire dans un premier temps que je n'ai pas eu le plaisir de voir l'exposition. Cela dit, j'ai vu la publicité, c'est une bien belle publicité que vous nous offrez effectivement dans les médias, c'est très beau. Alors ça nous donne vraiment, c'est une belle invitation pour aller voir cette exposition, alors bravo d'une part. Et puis Erel Hubert, bon, vous avez quand même tout un parcours, vous êtes docteur en archéologie andine de l'Université de Cambridge, hein, c'est bien ça.
Oui.
Alors vous avez une spécialité déjà là sur le monde, sur les Andes et tout, alors donc une exposition qui est le fruit d'une belle collaboration aussi, parce que vous avez travaillé avec d'autres musées pour bâtir cette exposition. Alors, justement, parlez-nous-en de cette belle collaboration.
Oui, ben en fait, c'est vraiment une exposition qui est créée à travers la collaboration, plutôt que par une personne spécifique. Et donc, au départ, il y a le Los Angeles County Museum of Art à Los Angeles, l'équipe là-bas, Julia Bertenshaw, Diana Magaloni, qui se sont retrouvés avec une collection d'œuvres de Colombie archéologiques et puis qui ont commencé à établir des liens, entre autres, avec le Museo del Oro, donc le musée de l'or à Bogota, en Colombie, ainsi que le Museum of Fine Arts à Houston. Et donc ça, c'est un peu la collaboration muséale, si on veut, du projet pour tout ce qui est la documentation des œuvres un peu plus techniques. Et puis, après, il y a oui, mais pour aller plus loin que l'identification, si on veut, scientifique des œuvres, de vraiment comprendre leur rôle, leur signification, il y a une collaboration sur plusieurs années, presque 10 ans, avec la communauté Arhuaco du nord de la Colombie, la Sierra Nevada et Santa Marta.
Qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi cette communauté? Parce qu'il y en a une centaine encore en Colombie, là,
oui,
de ces communautés autochtones.
Oui, là, évidemment, il y a plus de 100 groupes qui s'auto-identifient donc, de façon distincte selon le dernier recensement en Colombie, groupes autochtones. Les Arhuaco, en fait, il y avait une dame à Los Angeles qui avait déjà des contacts avec eux. Il s'agit d'un des groupes qui est le plus actif aussi au niveau politique, au niveau social, pour revendication des droits au territoire, de la protection de leur territoire, qui ont une relation très étroite aussi avec les œuvres faites par leurs ancêtres, les Tairona, donc les œuvres archéologiques. C'est pas nécessairement tous les groupes qui ont la même relation avec les œuvres anciennes, et donc ils étaient intéressés à participer au projet pour transmettre leur message. Et donc, c'est pour ça un peu que c'est vraiment la communauté Arhuaco, mais aussi avec des contacts avec d'autres communautés. Mais il y a entre autres Raisen Villafaña et Mamo Camilo Izquierdo, qui sont deux des principaux collaborateurs Arhuaco de l'exposition.
Ah, ben écoutez, on sait que la mission, d'ailleurs, c'est d'après un mot de votre directeur général, Stéphane Aquin, directeur général du Musée des Beaux-Arts, donc il parle de la mission du Musée des Beaux-Arts, donc qui est un lieu d'échange et de rencontre où s'expriment et se croisent de multiples manières d'envisager la nature et le rôle de l'art et vraiment l'univers au creux des mains, pensée et splendeur de la Colombie autochtone. Ben, c'est tout à fait dans cet esprit, finalement, que l'exposition a été, que l'exposition nous révèle, finalement, se révèle, en fait, au musée. Alors, c'est vraiment le fruit, effectivement, de cette collaboration. Mais donc, ces peuples-là, qui, en fait, ces communautés autochtones, qui ont aussi une manière de voir le monde, de se représenter le monde, c'est très... D'ailleurs, votre approche, quand on entre dans le musée, je pense qu'on doit entrer dans un esprit un peu méditatif en même temps.
En fait, c'est la structure qu'on a choisi d'adopter aussi à Montréal particulièrement. On a été assez chanceux pour pouvoir vraiment la mettre en espace. C'est vraiment de prendre l'approche Arhuaco, c'est-à-dire de regarder à l'intérieur de soi en premier, d'essayer de reconnaître nos préjugés, nos a priori, de penser à quelle est notre place dans le monde. Puis une fois qu'on a fait ce travail plus introspectif, d'aller à la rencontre de ce qui nous entoure et de commencer à poser des actions. Donc c'est ce moment de réflexion qu'on voulait vraiment placer dans l'exposition, c'est-à-dire que c'est quand même une vision du monde qui change par rapport à une vision plus naturaliste, si on veut, du monde nord-occidental, avec les œuvres qui seraient des objets, finalement.
Ouais,
tandis que là, ce sont des êtres vivants, ce sont des messagers. Même chose pour tout ce qui nous entoure, les plantes, les animaux, les rivières, les montagnes sont des personnes. Chez les, par exemple, les Yanakuna ou les Misak, l'eau est notre grand-mère. Donc, c'est vraiment une autre façon. Donc, au lieu de passer de la rapidité et du monde montréalais habituel directement avec les œuvres, peut-être pour renforcer cet aspect de connexion avec les œuvres, il y a un petit moment où on écoute Raisen Villafaña guider une sorte de méditation pour prendre le temps.
Oui, prendre le temps. D'ailleurs, on parle beaucoup de... On a aménagé physiquement des espaces, beaucoup d'endroits où on peut s'asseoir, prendre notre temps, observer, réfléchir. Alors vraiment, bon, il faut dire que pour cette communauté-là, bon, tout est... tout est en interrelation, donc avec la nature et tout. Et d'ailleurs, bon, il n'y a pas de commencement ni de fin. D'ailleurs, c'est pour ça que les œuvres ne sont pas datées.
Oui, ça, c'est probablement un des points qui est peut-être un peu déstabilisant par rapport à nos attentes.
Ah, ben oui, parce que ça change votre façon de travailler aussi. Vous avez l'habitude de travailler toujours avec des dates, puis de bien documenter ça. Mais là, c'est vos repères aussi. Vous perdez vos propres repères un peu.
Oui, ben en tant qu'archéologue, c'est toujours le quoi, où, quand. Donc, on a ces petites questions où on veut répondre. Par exemple, quand je parlais avec Julia Burtenshaw du LACMA de Los Angeles, quand eux, ils parlaient, puis bon, ça s'est confirmé dans mes conversations aussi avec les Arawakos, quand ils parlaient aux Arawakos, c'est pas vraiment ça l'important. Pour les œuvres, pour eux, c'était vraiment quel est leur rôle, en fait, de connexion, de comment ces œuvres peuvent créer des liens à travers, entre les gens, entre les lieux, et entre les temps. Et donc, c'est pas tellement important que l'œuvre ait été faite il y a 2000 ans, parce qu'elle a encore un rôle à jouer aujourd'hui. Elle est encore devant nous aujourd'hui. Et c'est entre autres pour ça, quand ils voyaient les cartels avec une date de début, une date de fin, pour eux, ça faisait un peu pierre tombale, si on veut.
C'est ça, oui. Ça fait un peu mortuaire, je sais pas trop, là, pierre tombale. Ouais,
donc, mais elles sont pas terminées, leur travail. Elles sont encore devant nous. On est encore en train d'interagir avec les œuvres. Et donc, il y a une carte avec des périodes qui placent quand même un peu les gens dans, au niveau chronologique, au niveau géographique, parce qu'on est quand même conscient que ce n'est pas tout le monde qui connaît parfaitement l'histoire de la Colombie, mais vraiment on voulait aller dans qu'est-ce que racontent les œuvres sur notre lien au cosmos, sur notre lien aux plantes et aux animaux qui peuplent le cosmos, les différentes façons de transformer les matériaux. Donc, c'était vraiment sur ça qu'on voulait mettre l'accent.
Bien sûr, aussi, on va parler justement des matériaux parce qu'il y a on utilise beaucoup l'or, qui est un métaux précieux, et on sait, bon, à quel point ça a beaucoup intéressé les conquistadors européens, quoi, espagnols et tout. Alors, bien sûr, mais pour eux, justement, le matériau aussi n'a pas d'importance. Que ce soit du coton, que ce soit n'importe quoi, ou de l'or, c'est un peu la même chose, au fond.
C'est pas la même chose. Il y a une valeur, je dirais que c'est la façon dont la valeur est attribuée qui diffère. C'est-à-dire que l'or n'a pas une valeur monétaire, une valeur d'échange. On est beaucoup plus dans... Même chose quand on parlait de connexion, à quoi se relie l'or? Il y a un peu l'association de l'or avec, par sa couleur jaune, par le fait que ça ne change pas, avec le soleil, avec le pouvoir un peu fécondateur aussi du soleil, parfois selon les groupes avec le masculin. Et quand on voit les œuvres qui ont l'air d'être en or, en fait, parce qu'elles sont dorées, elles sont toutes faites d'un alliage qu'on appelle le tumbaga, qui est un alliage d'or et de cuivre. Et donc, je parlais de l'association de l'or au soleil. Le cuivre, qui est rougeâtre, qui se transforme, est beaucoup plus lié à la lune, avec ses phases changeantes, à l'aspect transformateur, souvent avec la féminité pour plusieurs groupes du centre.
Il y a toute une symbolique à travers ça.
Exactement. Okay. Et donc, la valeur n'est pas... on a un peu tendance, et c'était l'approche des conquistadors quand ils... carrément faisait fondre les œuvres, de penser l'or en carat, en valeur d'échange, valeur monétaire. Mais là, en fait, l'alliage a plus de valeur que l'or pur puisqu'on met ensemble le soleil et la lune.
Ah oui, alors là, ça change complètement.
Exactement.
Oui.
Et donc, c'est pas que le matériau n'a pas d'importance, mais simplement que la façon dont la valeur est attribuée change selon... les gens.
Alors, c'est très éclairant tout ça. Donc, on a ces 400 pièces à peu près qu'on a dans l'exposition?
Oui, plus de 400 œuvres dans l'exposition qui vont, justement, on a des récipients en céramique, on a tous ces ornements en alliage d'or et de cuivre, on a des aquarelles contemporaines par un artiste d'Amazonie.
Et oui, il peut y avoir des œuvres qui sont plus récentes, là.
Oui, parce que si on va dans l'aspect, la majorité des œuvres sont ce qu'on appelle des œuvres archéologiques, c'est-à-dire qu'elles ont été faites avant la conquête européenne, mais il n'y a pas de rupture. Donc, il y a une violence de la période coloniale, mais les Autochtones sont toujours là aujourd'hui. Et même si, par exemple, on parlait des alliages métalliques, il n'y a plus vraiment de pratique de l'orfèvrerie chez les groupes autochtones aujourd'hui.
Ça s'est un petit peu perdu, en effet, hein, oui. Ces techniques, malheureusement.
Oui, ben, entre autres, j'aime bien ce qui nous racontaient les Arawakos, c'est qu'ils disent que maintenant, l'or s'est caché. Et je pense que c'est assez parlant.
Oui, dans quel sens? Vous voulez dire qu'à cause du fait que les techniques se sont, se sont perdues, finalement?
Ben, avec toutes les pressions qu'ils ont subies avec la colonisation, c'est le matériau est allé se cacher, finalement.
Je comprends, ouais.
Donc, il est encore là, il est simplement caché. Mais donc, on a cette présence, puis beaucoup des éléments qui semblent avoir guidé la création artistique il y a 1000, 2000, 3000 ans. On retrouve ces éléments dans les traditions autochtones aujourd'hui aussi. Et ces œuvres qui ont été faites par les ancêtres des Autochtones qui peuplent la Colombie aujourd'hui, puis c'est la même chose si on parle des Premières Nations ici.
Assurément.
Ont encore une pertinence aujourd'hui pour les messages qu'elles nous apportent.
D'accord. Eh bien, alors, ces pièces, ce sont en fait, bon, on a parlé de... ça peut être des bijoux, ça mm-hmm. peut être des pièces de céramique, en fait, des pièces que l'on portait aussi mm-hmm. sur la poitrine. Il y a vraiment des choses absolument magnifiques à voir. Donc, et il y a aussi des... En fait, il y avait l'importance de la musique également dans cette culture autochtone de Colombie. Ben, bien sûr, la musique qui finalement reproduit un peu les sons de la nature.
Oui, c'est ça. Donc, la musique est très importante. Même la musique participe à la création du monde dans les histoires Arawako, entre autres, mais dans plusieurs histoires fondatrices des peuples autochtones de Colombie. Et on a ça, entre autres, dans une salle qu'on a décidé de dédier à ce qu'on appelle des ocarinas. C'est comme des petites flûtes globulaires. Donc, il y en a en forme de coquillage, il y en a en forme d'oiseau. Et quand on parlait de, justement, reproduire les sons de la nature, celle en forme d'oiseau nous parle du ciel, un peu comme les oiseaux qui nous racontent leurs histoires, tandis que les coquillages, on entend la voix de l'océan, qui est la mère créatrice pour les Arawakos. Et donc, on a la chance d'avoir une trame musicale qui a été composée pour l'exposition par Luis Fernando Franco, qui est un compositeur colombien qui travaille depuis des années avec justement des ocarinas anciennes, qui a joué des ocarinas anciennes, et on les entend, donc on voit les œuvres, mais on voulait aussi que ces voix résonnent dans ouais. les salles d'exposition.
Vous avez aménagé les salles aussi de façon assez simple, hein?
Mm-hmm.
Justement pour pas peut-être surcharger, puis bon, qu'on se concentre un peu sur l'esprit, sur le message, et puis c'est ça, de la dimension plus spirituelle au fond. Alors ça, c'est intéressant. Il y a évidemment toutes sortes de choses qui sont en parallèle. D'abord, juste aussi reparler, il y avait quand même à la base aussi un donateur hein, privé, je pense, qui avait donné des œuvres aussi à un des musées, alors que ça a alimenté beaucoup.
C'est ça. En fait, il y a une collection privée qui a été acquise par le LACMA.
Le LACMA, qui est le Los Angeles County Museum of Art, oui. Alors, effectivement, et puis ça, c'est... D'ailleurs, ils ont bâti un beau catalogue. Est-ce que vous vous servez du même catalogue?
Oui, oui. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a entre autres fait la version française. Donc, il y a à la fois la version anglaise, qui est la même qui était vendue à Los Angeles et à Houston. Mais nous, on a aussi la version française ici à Montréal, qui a été traduite au musée ici.
Ah oui, puis là, vraiment, on y apprend plein de choses, là, vraiment, sur ces communautés, en fait, sur l'art et finalement, plein d'aspects, évidemment, que l'on ne peut pas traiter nécessairement dans le cadre de l'exposition, mais vraiment, c'est complémentaire. Et il y a aussi plein d'activités en parallèle. Mm-hmm. Ça, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que c'est ça que j'aime au Musée des Beaux-Arts. C'est que, vraiment, c'est très, très riche, parce qu'on nous présente souvent des expositions, mais tout ce qu'on fait en parallèle, également, c'est intéressant, des ateliers. Vraiment, on met ça tout en relation. Alors, parlez-nous-en, effectivement, de ces activités-là. Il y en a plusieurs, hein, des ateliers de création, oui. Des choses comme ça, oui.
Oui, bien, c'est ça. On a toute une programmation. C'est toujours le principe au musée d'avoir une programmation qui accompagne les expositions. Puis d'ailleurs, la dernière salle de l'exposition est même une salle unique à Montréal, qui est une salle développée avec le département de l'éducation qui inclut entre autres des citations de gens colombiens d'ici, de gens des Premières Nations d'ici, pour un peu ramener à la pertinence, qui amène les gens à écrire leurs propres réponses à des questions comme comment prendre soin du monde, pour avoir cet aspect de quand on passait de réflexion introspective à passer à l'action. Maintenant qu'on a fait l'exposition, vers où on va? Puis après, il y a tous ces ateliers de création pour différents âges, qui sont gratuits, qui ont lieu devant l'exposition, entre autres pour créer un petit environnement miniature dans une petite boîte. On va aussi avoir une série de films qui va être présentée.
Oui, ça, c'est intéressant. Vous avez un volet aussi. Mm-hmm. Ben, d'abord, il y a aussi, un documentaire sur le oui. En fait, comme on dit, les dessous de l'exposition en même temps. C'est...
Oui, ça, c'est un documentaire en 9 épisodes qui est disponible sur YouTube. Donc, tout le monde peut aller chercher, qui s'appelle Unpacking the Universe et qui raconte l'histoire de l'exposition. Donc, justement, de cette première acquisition de céramique par le musée à Los Angeles, la rencontre avec les Arhuacos, comment on donne forme, si on veut, comment on transmet ce message qui est différent de notre vision du monde plus naturaliste dans des espaces qui, somme toute, sont des boîtes rectangulaires.
Oui,
donc,
oui, oui, oui.
Comment on arrive à mettre sur pied une exposition? Donc, ça, c'est le documentaire de base. Et puis, justement, comme il y a un aspect quand même très, très important dans l'exposition qui est cette interrelation avec ce qu'on appelle la nature, mais qu'ils appellent plutôt notre famille élargie, puisque nous sommes tous des personnes.
C'est vrai, oui.
Il y a Raisen Viafania dit « Prendre soin de l'humanité, c'est prendre soin de la nature. Prendre soin de la nature, c'est prendre soin de l'humanité. » On ne peut pas séparer l'humanité.
On peut pas, c'est toujours relié, forcément. Ouais.
Et donc, c'est une série de films autochtones à travers le monde, donc des Amériques, mais aussi du nord de l'Europe, Sibérie, tout ça, qui a été commissarié par Assinayak, qui est une commissaire, artiste, cinéaste inuite, et donc qui sera présentée au cinéma du musée et qui présente des films sur cette relation à la nature.
D'accord.
Mais du point de vue, donc il y a des courts-métrages, il y a des longs-métrages.
Alors, très intéressant cette collaboration avec le musée, le cinéma du musée, effectivement, et puis évidemment cette programmation de cette série documentaire. Il y a aussi un volet pour les tout-petits, on les oublie pas.
Oui, oui. Donc, quand je disais, c'est ça, tous les ateliers de création, il y a différents ateliers
selon l'âge.
La dextérité pour les différents âges. Et donc, il y a 3 activités, si je me rappelle bien. Il y a faire des petits oiseaux.
Vol papillon, entre autres. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la Colombie abrite quand même la plus grande population de papillons au monde. Alors ça, c'est une belle découverte.
Il y a une diversité assez exceptionnelle, que ce soit pour les oiseaux, pour les mammifères terrestres, pour les papillons, qui est entre autres liée au fait qu'on va de pics de montagne à plus de 5000 mètres d'altitude à la côte pacifique, caribéenne, l'Amazonie. Donc, tous ces écosystèmes créent une grande diversité. Et puis, c'est pour ça aussi qu'il y a l'avenue du musée, où là, c'est une murale qui est sur la diversité d'ici, des plantes et des insectes locaux, indigènes, au Québec. Mais donc, c'était quand on a développé avec le département de l'éducation les activités de création, c'était un peu de penser à cette diversité, mais aussi pas nécessairement d'essayer de copier la diversité colombienne, mais plutôt les oiseaux que les enfants peuvent rencontrer ou qu'ils peuvent imaginer. La même chose pour les papillons.
Oui, exactement. Donc. Bon. Eh bien, c'est fort intéressant. Alors, évidemment, bon, c'est souvent concentré les fins de semaine, hein, ces ateliers-là, samedi et dimanche. Alors, je pense qu'en allant sur le site du musée, on va avoir tous les détails. Mais enfin, pour petits et grands, et évidemment, des activités selon, comme vous dites, la dextérité, l'âge des jeunes. Alors, vraiment, bon, on parle d'une zone d'exploration pour prolonger l'expérience. De quoi s'agit-il exactement?
C'est cette salle dont je vous parlais où on a les citations, on a en fait des poufs et des bancs.
Ah, c'est ça, exactement.
Pour s'asseoir, on a accès au catalogue où on peut répondre aux questions, on a des petits cartons, il y a des gens qui nous font des dessins même, donc on garde tout ça aussi parce que ça va faire partir des archives de l'exposition.
De l'exposition, oui,
c'est pas ça. Mis aux poubelles à la fin, je rassure.
Non, je absolument rassure tout pas. Le monde. Et puis bon, juste pour ajouter pour les jeunes, là, il y a l'heure du conte, c'est intéressant. Là,
oui.
C'est un conteur et musicien originaire du Panama, je pense, qui va plonger les petits et grands, hein, parce que les parents seront sans doute à leur côté, va nous plonger dans l'univers fantastique des légendes latino-américaines. Alors, d'ailleurs, bon, je pense que les jeunes, les enfants sont un petit peu initiés par certains films qui ont été présentés il n'y a pas si longtemps dans les cinémas. Oui,
qui reprennent d'ailleurs bien des éléments qui se retrouvent même aussi en archéologie.
Oui, c'est ça. Donc, évidemment, c'est passionnant que votre métier, bien sûr. Et puis, j'imagine que ça a dû être... Bon, ça s'est déroulé, vous dites, à peu près quoi, sur 10 ans, à peu près
oui.
Et vous étiez au cœur de ce parcours-là,
dès le
départ?
J'étais au courant, j'étais en contact parce que, entre autres, Julia Bertrand-Shaw de Los Angeles, je la connais depuis avant même qu'on soit toutes les deux travaillant dans des musées. On faisait nos études en même temps. Donc, l'exposition était sur le calendrier. Puis, bon, il y a eu tout ce qu'on connaît.
Évidemment, tout ce qu'on connaît, oui, bien sûr.
Donc, elle a été retardée et tout ça. Et donc, elle est revenue sur le calendrier à partir de 2020. Donc, c'est là vraiment que je me suis penchée plus en détail. Mais j'étais déjà en contact au cours du développement de l'exposition.
Est-ce qu'il y a des membres de la communauté est-ce que vous avez pu leur montrer le résultat un peu de cette exposition?
Pour l'instant, j'ai envoyé des photos.
D'accord. Évidemment, c'est un long...
WhatsApp fonctionne plutôt bien.
Oui, c'est ça.
Santa Marta.
C'est un long voyage que de venir voir l'exposition.
Mais en fait, on a entre autres Aysen Villafania. Si les gens visitent l'exposition, vont voir ce nom très souvent pour les citations. Et sa femme, Rubiela, qui vont venir voir l'exposition et faire un rituel d'alimentation des œuvres, tout ça, plus tard cet été.
Très intéressant. Et puis bon, vous avez aussi des guides ressources au musée.
Oui.
Qui peuvent servir d'interprètes aussi, des interprètes hispanophones. Alors vraiment, quelle belle exposition. Donc, c'est réjouissant de voir tout ce travail qui a été fait. Donc, j'invite tout le monde à visiter cette exposition présentée au Musée des Beaux-Arts, « L'univers au creux des mains, splendeur des peuples autochtones de Colombie ». Donc, c'est présenté, c'est ça, au Musée des Beaux-Arts jusqu'en octobre, je pense,
oui.
1er octobre.
Hein? Tout à fait.
Alors, vraiment, et puis, c'est ça, écoutez, ça a été passionnant de vous entendre. Et puis, bon, on a eu un peu plus de temps pour nous. Alors, ça a été bien parce qu'on a pu faire un peu plus le tour de cette culture. Et puis, effectivement, on s'en va réfléchir, méditer, on s'en va découvrir ces œuvres qui inspirent et qui nous montrent aussi une nouvelle façon, enfin, une façon différente d'appréhender le monde. Et de se représenter
oui,
soi-même.
Oui, j'espère que tout le monde trouvera ne serait-ce qu'une œuvre avec laquelle se connecter. Puis merci beaucoup de l'invitation de me donner.
Ça a été un plaisir. Et puis j'invite aussi tout le monde à aller sur le site du Musée des Beaux-Arts parce que, bon, outre cette exposition, il y a plein d'autres choses que l'on peut faire.
Oui.
Et puis nous qui sommes évidemment engagés avec des gens qui sont, par exemple, à mobilité réduite, on a, bien sûr, sur le site plein de choses que l'on peut faire sans avoir à se déplacer. On découvre plein d'aspects intéressants, il y a toutes sortes de choses. Allez voir, là, j'en reparlerai parce que j'en ai parlé l'an passé, puis je trouve que ça vaut la peine de le répéter à quel point, pour les gens qui peuvent peut-être pas se déplacer facilement ou des gens de l'extérieur peuvent découvrir la richesse de ce musée. Alors, fort intéressant. Merci, c'est ça. Merci bien, Erel Hubert, commissaire responsable de cette exposition. Et à bientôt. On
à
ira
bientôt.
Vous voir.
Merci.
bailando de Bogotá hasta Palenque, me fui con toda la gente. Colombia, tierra tan bella, la madre naturaleza te dio una forma de ser. Colombia, stay my favorite place. Colombia, te quiero tanto que siempre me enamora tu encanto. Colombia, te quiero tanto que siga bendiciendo tu encanto. Y es que a ti, Colombia, yo te quiero tanto que siempre me enamora tu encanto. Colombia, te quiero tanto que siga bendiciendo tu encanto.
Carlos, vive Colombia, mi encanto.
Bon, pour faire le lien avec notre exposition de tout à l'heure, là, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, merci Nicolas. Nicolas Zwartman, qui est à la mise en onde et au choix musical aujourd'hui. Méliane Fafard, qui était à la recherche de l'émission. Eh bien, ici Chantal Lavoie, je vous souhaite une bonne après-midi, et je vous retrouve demain entre midi et 13h. Aime l'été.